est blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40. 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflys OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il a cofondé Quelcoup, qu'il va revendre. Puis il va rejoindre Photobox, qui va être revendu. Puis rejoindre Borderlinks, et là encore, une session. Jérôme Mercier, tu es un aimant à acheteur. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que les dés sont déjà jetés pour camping.com, dont tu viens de prendre la tête?
Alors, j'espère pas. La réalité, c'est que je pense qu'on a une marque et un business qui devraient nous permettre de rester indépendants. Voilà, c'est un beau marché, on a beaucoup de choses à faire. Donc l'idée aujourd'hui n'est pas de parler de session, mais plutôt de croissance et d'hypercroissance sur campings.com.
C'est toute l'idée de ce podcast. C'est la toute première fois qu'on fait intervenir un entrepreneur du FT 120. On avait envie d'élargir avec Olivier le spectre des entrepreneurs, parce qu'on est là pour donner à voir et entendre les histoires des champions de la tech française, et vous en faites partie. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à peu près une heure et demie ici à Vivatech, avec qui on monte ce format en partenariat, et qu'on va découvrir l'aventure camping.com, ses enjeux, la vision que tu peux avoir de ta boîte sur ce marché. Et puis évidemment, on va essayer de découvrir l'homme derrière la boîte, l'entrepreneur tout court, à travers les multiples aventures que tu as pu vivre. On démarre tout de suite sur camping.com. Pitch, oh mon pitch, pitch, oh mon pitch. Je te cache pas qu'il y a des boîtes où on ne sait pas tout de suite ce qu'elles font quand on découvre la marque. A priori, ça a l'air assez évident avec camping.com. Néanmoins, je veux bien savoir avec quel mot tu présentes la boîte.
Alors, campings.com, c'est évidemment une plateforme d'intermédiation qui accompagne l'hôtellerie de plein air dans sa commercialisation. Donc, c'est vrai que cette marque, elle dit clairement ce qu'elle fait. Après, quand on pitch le business, véritablement, on met en avant un marché qui est extrêmement fragmenté. On montre véritablement l'ensemble de la proposition de valeur pour accompagner les hébergeurs. Donc on a beaucoup de choses à faire sur un marché qui est passionnant, qui est finalement la troisième et la dernière typologie d'hébergement qui n'avait pas été intermédiée, après l'hôtellerie classique, après les résidences. On dit souvent que les résidences ont été intermédiées par Airbnb, qui a fait le A. Pour l'hôtellerie classique, c'est Booking avec le B. Et bien pour l'hôtellerie de plein air, sur les campings,
L-C.
C'est campings.com. On fait le C, et on est très fiers de montrer qu'une boîte française, finalement, n'a rien à envier aux plateformes généralistes étrangères, qu'on est un vrai spécialiste, qu'on est numéro 1 en Europe. On est très largement numéro 1 en France. Et on continue à apporter beaucoup d'innovation dans notre plateforme et dans notre modèle.
C'est quoi les enjeux d'un modèle comme le vôtre ?
Bien, l'enjeu, c'est véritablement montrer qu'on est capable encore et mieux accompagner nos partenaires hébergeurs, à la fois pour leur permettre de renforcer leur performance et leurs revenus par emplacement, notamment les accompagnant sur la commercialisation de leur basse saison, leur montrer également qu'on peut les accompagner pour aller chercher une clientèle étrangère ou toucher des bassins de clientèle très différents. Ce que l'on apporte en France, on travaille avec 1200 comités d'entreprise qui nous font confiance pour permettre à leurs ayants droit de venir réserver leurs vacances sur notre plateforme. Voilà, tout ça, ça renforce la proposition de valeur que l'on apporte aux hébergeurs aujourd'hui en France, mais surtout en Europe.
Ça draine du visitorat.
Oui, ça fait un beau volume. On a accompagné à peu près 1 million de voyageurs l'année dernière. On est une boîte de croissance. Voilà, on devrait dépasser les 200 millions de GMV cette année. Donc oui, on commence à faire un joli volume, ce qui pose plein de sujets de scale-up véritablement.
Alors, on va revenir sur les enjeux aussi internes de la croissance. Tu parlais d'hôtellerie de plein air. Oui. Est-ce qu'il y a un sujet de perception de ce qu'est le camping dans l'imaginaire collectif, avec une notion un peu, je me permets de le dire, et tu le défendras sûrement très bien, mais plus bas de gamme?
Oui, alors en fait, l'hôtellerie de plein air s'est réinventée depuis une vingtaine d'années, notamment avec l'arrivée des locatifs qui permettent aux familles de passer de bonnes vacances dans des hébergements complètement équipés. Et puis, on voit aujourd'hui une montée en gamme des infrastructures et des hébergements qui nous permettent de montrer que l'hôtellerie de plein air est une vraie belle solution pour passer de bonnes vacances. C'est certainement le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui dans une période d'inflation. Donc on fait valoir tout ça, et c'est l'intérêt d'avoir un moteur de recherche et de réservation qui permet donc de rechercher,
pied, quoi.
Voilà, qui permet de rechercher des offres parmi 4500 établissements référencés en Europe et les utilisateurs de notre plateforme ont la capacité de comparer, de réserver en temps réel. Ça apporte de la transparence sur un marché qui est extrêmement riche, véritablement.
Comme ça, je n'ai pas en tête un marché où les usages n'ont quand même pas évolué sur les 20 dernières années. C'est quoi les grandes tendances d'usage ? Qu'est-ce qu'ils recherchent, ces visiteurs européens ? Est-ce que les campeurs français ont les mêmes attentes, les mêmes requêtes que les Néerlandais, par exemple ?
Alors, il y a des différences entre chaque audience ou chaque émission de clientèle. D'abord, le plus important pour nos partenaires hébergeurs, c'est les périodes de vacances scolaires. Voilà, on sait que les Français partent majoritairement en vacances au mois d'août. On espère aujourd'hui leur apporter plus de clientèle venant des Pays-Bas et d'Allemagne, qui représentent 16% de la clientèle dans les campings français. Donc c'est stratégique de les accompagner dans cette commercialisation à l'international pour aller chercher ces populations. Donc ensuite, il y a des attentes qui sont évidemment un peu différentes par nationalité en termes de typologie d'hébergement. Voilà, on sait que les Néerlandais aiment beaucoup les lounges ou les bungalows toilés, par exemple, même un peu haut de gamme, ce qui est moins le cas des Français. Donc on s'assure d'avoir finalement une pertinence de notre offre pour pouvoir adresser les différents bassins d'audience, ce que l'on fait plutôt bien grâce à une techno qui tourne proprement et qui rend un très bon service à nos utilisateurs.
Est-ce que ce rapport à la nature, cette manière de se ressourcer ou d'être plus proche du sol augmente au fil des années avec toutes les considérations environnementales sur le climat qu'il peut y avoir, ou finalement les adeptes du camping sont et resteront toujours les mêmes et à peu près dans les mêmes proportions?
Alors en fait, suite au Covid, on a vu véritablement que l'hôtellerie de plein air était une valeur refuge. Donc ça a permis à des familles de découvrir finalement ces vacances qui permettent de louer un mobilhome tout équipé pour passer du temps en famille. En fait, c'est une population, une cohorte qu'on appelle des néo-campeurs que l'on suit en termes de en termes de repeat, pour pouvoir nous assurer qu'on a bien une fidélité sur cette clientèle qu'on a été chercher à ce moment précis. Ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des attentes qui sont très marquées, notamment dans les filtres de notre moteur de réservation. Le label éco-responsable est un filtre qui est utilisé autant que le filtre budget, même si le filtre budget a doublé en termes d'utilisation cette année, certainement dans le cadre de l'inflation.
Pas doublé en termes de budget.
Non, pas doublé en termes de budget, mais en termes d'utilisation. Mais on est au même niveau que des hébergements éco-responsables, des établissements éco-responsables, ce qui montre véritablement que la clientèle, bien, elle est sensible à tout ce que l'on peut faire, et ça fait d'ailleurs partie des valeurs de l'hôtellerie de plein air. Au-delà de la convivialité, on parle du respect de l'environnement, et on se rend compte que c'est bien un des critères qui est clé dans la recherche des utilisateurs.
On avait récemment... Alors, sur un autre de nos podcasts, au micro, Geoffroy de Bec de Lièvre, Marco Vasco, oui. qui nous expliquait qu'à l'époque, il avait un vrai sujet sur l'acquisition, qu'il avait réussi en partie à s'exonérer des Google et autres. C'est un sujet pour n'importe quelle boîte aujourd'hui, sur des métiers comme le vôtre. Comment vous faites ?
Ben, en fait, évidemment, hein, le trafic non payant est clé dans la rentabilité d'une entreprise. Donc nous, on commence par effectivement bien travailler notre mix de commercialisation en mettant en place tous les leviers et en les suivant très finement.
Tu peux partager quelques exemples de leviers ?
Bon, bah, là où on achète le plus de trafic, c'est évidemment sur le search, hein, malgré tout. On ne refait pas le marché, mais on a besoin de mettre en place des campagnes spécifiques qui nous assurent un bon rendement, un bon retour sur investissement. Donc le search, ça reste notre premier canal d'acquisition, bien évidemment. Ensuite, on travaille de mieux en mieux nos positions SEO en nous assurant d'avoir à la fois des fronts qui sont extrêmement performants et également un contenu qui est riche et qui permet d'être bien ranké. Et au-delà de ça, entre le free et le paid, ce qui est important, c'est le repeat. Et donc on travaille depuis plusieurs années nos campagnes CRM avec une segmentation qui est de plus en plus fine et des triggers qui sont de plus en plus intelligents pour engager la base et leur faire découvrir des nouveautés, des bonnes affaires au bon moment pour engager la base et générer du volume de réservation.
Est-ce que tu aurais l'amabilité de partager quelques triggers que tu évoques ?
Alors, un trigger, par exemple, ce serait...
Sans tout révéler, mais on...
Non, mais un trigger très simple, c'est de réengager un client en lui disant le camping dans lequel vous avez réservé l'année dernière. Finalement vient de rouvrir ses réservations sur la même typologie d'hébergement ou alors sur une typologie plus haut de gamme. Voilà, ça permet de travailler la fidélité au camping, hein, même si elle est finalement assez faible. La fidélité au camping, elle est inférieure à 15%, mais c'est finalement une des raisons pour lesquelles la clientèle utilise notre moteur de recherche et de réservation. C'est pour pouvoir
élargir
leur recherche, découvrir la richesse de l'offre de l'hôtellerie de plein air, qui est un marché, encore une fois, qui est extrêmement fragmenté. On voit 85% des campings en France sont des campings indépendants, avec un ADN qui est porté par leur propriétaire, souvent un couple. Et donc ça apporte beaucoup de richesse sur certaines thématiques. Et donc nous, on met en avant évidemment les concepts d'hébergement portés par ces campings indépendants, mais surtout on met en avant les régions, on sait vendre les régions, on vend la France. Voilà, donc c'est toute l'expérience que vous retrouvez sur Campings.com.
On passe pas sa semaine dans les quelques kilomètres carrés du camping. Évidemment, on va souvent découvrir ce qu'il y a autour. Je reste sur ce sujet du repeat. 15% des gens qui reviennent fidèles à un espace, à un camping. pour les 85% restants. Donc la première campagne sur le sujet du camping a pas forcément pris. Ils sont invités dès ce premier mail à voir d'autres offres alentour ou sur des typologies de camping similaires, ou on repasse avec un second mail.
Oui, bah alors évidemment,
on veut tout savoir ici.
Évidemment, quand on envoie un premier email, on offre d'autres portes d'exploration pour être sûr de bien utiliser ce moment d'attention que le client veut bien nous donner. Voilà, en fait, la réalité, c'est que 80% des recherches commencent par les destinations. Les gens savent exactement où ils veulent partir et c'est à ce moment-là véritablement qu'on met en place toutes les mécaniques pour pouvoir leur faire découvrir la richesse de l'offre en fonction de la destination qui est choisie.
C'est quoi votre plus gros coût ? Votre meilleur coût avec camping.com ?
Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette question. je crois que la...
Je ne parlais pas en COUT. Hein.
Oui. Non. J'avais bien compris. En fait, je crois que... Donc, moi, c'est une entreprise que j'ai reprise il y a 5 ans, qui est arrivée à un plafond de verre. Et on lui a donné un traitement de choc pour pouvoir passer de ce mode PME un peu désorganisé à French Tech 120.
Je t'ai entendu parler d'une belle endormie.
Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire que j'ai repris l'entreprise sur un marché d'hôtellerie de plein air qui est extrêmement fragmenté, très peu intermédié finalement il y a 5 ans, et donc vraiment un marché formidable à adresser, encore une fois pour développer un service, une boîte française qui n'a rien à envier aux plateformes américaines. Mais il a fallu passer par différentes étapes pour nous assurer que l'entreprise, elle était correctement organisée, elle était capable de faire un bon boulot. Donc il n'y a pas eu un gros coup, en fait, depuis que je suis arrivé. Il y a eu de la méthode et cette volonté de finalement prendre une boîte qui était montée à l'envers avec trop d'OPEX, pas assez de CAPEX, investir massivement dans sa plateforme pour pouvoir aller chercher une croissance mécanique grâce aux investissements qui ont été faits. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un peu perturbé par cette question, mais en fait ça a été beaucoup de méthodes, ça a été pas facile hein, pour les équipes et pour l'entreprise, mais bon, il a fallu réussir à casser ce plafond de verre, à partir dans une croissance rentable pour pouvoir continuer à investir et prendre du souffle. Donc je dis souvent que voilà, j'ai pris une boîte qui était un peu mal en point, peut-être avec une jambe cassée, et il a fallu lui apprendre à marcher, puis à courir. Et c'est vrai que l'année dernière, quand on est rentré dans la French Tech 120, bah, c'était une belle reconnaissance ouais. Pour les équipes et puis pour le travail qui a été fait. Alors il n'a pas été fait, il n'a pas été fait que par un entrepreneur, hein, un entrepreneur qui se... digne de ce nom, il sait s'entourer. Ce que j'ai fait avec campings.com, c'est que je suis arrivé avec j'ai construit une équipe de leadership avec des talents qui avaient déjà travaillé avec moi chez Photobox, et donc ça a permis de créer cet électrochoc, faire venir vraiment des experts de toutes les disciplines qui savaient jouer au ballon ensemble au service d'un projet pour pouvoir repartir en croissance en maîtrisant véritablement l'ensemble de la roadmap. Voilà.
Vous avez un message.
Bon, mes frères, dans la vie, il faut bosser avec des gens qu'on aime.
Qui nous parle.
Je crois que c'est Robert.
C'est effectivement Robert Amadi. En fait, tu as deux questions qui t'ont été envoyées. Donc là, qui n'est pas tout à fait une question, mais qui nous amène à la seconde intervention d'un proche. Donc Robert Amadi, tu peux peut-être nous dire un mot de qui c'est ?
Ah, Robert Amadi, c'est un professionnel de la communication, un garçon que j'aime beaucoup, qui est vif, brillant. Voilà, il me conseille, il me suit, il me donne quelques tips également. Voilà, c'est quelqu'un que j'adore et sa question est tout aussi drôle.
Et il t'appelle frère, hein, il te parle de gens qu'on aime et ça nous amène à une question de Sébastien Roy qu'on écoute, CEO de Private Sport Shop.
Vous avez un message.
Jérôme, tu as magnifiquement réussi l'aventure Quelcou. L'équipe de fondateurs dont tu es resté très proche est devenue quasiment ta famille. Toi et moi, on a vécu ensemble une aventure incroyable chez Egg, mais surtout chez Photobox. Je te considère depuis comme un ami très proche et incroyablement fidèle. Compte tenu du succès de Camping.com, tu es forcément entouré d'une équipe de très très grande qualité. Et donc voilà ma question. Crois-tu que pour réussir dans le business, et j'oserais dire dans le business digital, il faut forcément bosser avec ses futurs meilleurs amis?
Vaste sujet.
C'est une bonne question. Alors c'est vrai que si je reprends le fil de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur campings.com, j'ai monté une équipe de leadership avec des hommes et des femmes avec lesquels j'avais déjà travaillé chez Photobox. Ça nous a permis d'aller très très vite. C'est vrai que j'aime cette proximité avec des gens qui sont doués, qui sont engagés, qui ont envie de faire bouger les choses. Et effectivement, pour répondre à la question de Robert, je les aime tous. Ils m'impressionnent. Je pense qu'ils sont meilleurs que moi à leur âge. Et je suis convaincu que dans cette équipe, il y a les futurs CEO des prochaines boîtes FT120 ou Next 40. Voilà, ça fait aussi partie du voyage, de la transmission. Ce qui me ramène à la question de Sébastien, c'est vrai que Quelcou a été une aventure humaine exceptionnelle menée par Pierre Chapaz, qui est certainement l'un de mes meilleurs amis, si ce n'est le meilleur ami, mon meilleur ami. Je parle encore aujourd'hui à beaucoup de membres de l'équipe de Quelcou. On se suit et c'est effectivement une bonne famille. Mais la question de Sébastien, elle est un peu plus fine que ça. C'est est-ce qu'on a besoin de travailler avec ses futurs amis?
Oui.
Je l'espère. J'espère que chez campings.com, toute l'équipe de leadership ou le LN-1, enfin tous ceux avec lesquels j'interagis, seront mes amis qu'on va continuer à suivre pendant et au-delà de campings.com. Mais est-ce qu'il faut travailler avec ses amis? Ça, c'est plus compliqué.
Disons qu'on ne sait pas toujours ce que ça peut donner.
Voilà. Alors, là, j'ai encore un exemple. C'est que chez campings.com, notre CTO, François Darfeuil, est un ami de plus de 25 ans. On a fait nos études ensemble. Quand j'ai repris campings.com, il y avait un challenge tech énorme. Mais j'avais besoin d'un CTO brillant, mais avec une proximité à toute épreuve, parce que je n'avais pas le temps finalement d'avoir un disconnect entre le CEO et le CTO. On avait besoin de marcher la main dans la main, parce que c'était véritablement la thèse d'investissement pour aller chercher.
De se comprendre vite.
Voilà, et de se faire confiance. Voilà. Et donc aujourd'hui, personne ne peut passer entre François et moi. On a cette confiance portée par 25 ans qui est à toute épreuve. Mais c'est compliqué.
Pourquoi ?
Je vais reprendre à ce que m'avait dit un ami, Dominique Vidal, à l'époque de Quelcou. Il me disait qu'il ne faut pas travailler avec ses amis parce que c'est trop compliqué. On les aime pour plein de critères, mais pas forcément pour des critères
business. Du travail, oui.
Et finalement, c'est aussi prendre un risque de challenger son amitié, parce que si ça se passe mal, alors est-ce qu'on va moins challenger pour pas frustrer cet ami, ou est-ce que c'est finalement pas une bonne solution pour l'entreprise? Donc, je pense que c'est compliqué de travailler avec un ami, parce qu'il faut... Il faut rester extrêmement pertinent, sharp sur l'ensemble des sujets. Ceci dit, encore une fois, après Quelcou, après Photobox, et quand je revois la qualité de cette équipe chez campings.com, j'espère qu'ils me donneront la chance de rester leur ami pendant très longtemps, et certainement après l'aventure campings.com.
Oui, donc pas de dogmatisme. C'est compliqué de travailler avec ses amis, c'est pas impossible. Néanmoins, je reviens quand même sur ce sujet de devenir ami avec son équipe actuelle, ceux avec qui on mène l'aventure. C'est vrai que mener de telles aventures avec la pression, les montagnes russes, les hauts et les bas, ça forge une certaine fraternité. Mais tu as aussi des entrepreneurs qui vont te dire « Moi, je mets des grosses barrières. Je veux vraiment séparer pour pas me laisser peut-être ce que tu évoquais tout à l'heure, driver par de l'émotion ou pas vouloir froisser ou moins dire les choses parce que je veux pas briser autre chose. »
Oui, tout le monde a son style. Ouais. Voilà, moi j'ai.
Tu changes pas un style qui a gagné jusqu'ici.
Oui, et enfin, peu importe. Je crois qu'il faut être proche des gens. Il faut construire cet environnement de confiance qui marche dans les deux sens. Moi, je leur fais confiance, ils me font confiance, ils me tirent vers le haut. Je les challenge en permanence. Je suis leur sponsor. Ils sont tous très très bons sur leur discipline. Je suis leur sponsor parce que je porte le PNL d'une certaine manière. Mais eux, ils me font confiance parce que je suis le coach qui rassemble finalement l'ensemble de ces programmes pour pouvoir aller chercher la performance de l'entreprise dans sa globalité. Donc moi, j'aime bien cette proximité. Je pense qu'un peu d'humour ou beaucoup d'humour, ça permet d'adresser des sujets ou des périodes qui sont toujours un peu compliquées ou qui peuvent être compliquées. Ce qui ne veut pas dire que on ne peut pas avoir un principe de réalité et à un moment dire « Hey frère, là t'as déconné et ça va pas ». Et voilà, donc tout le monde a son style. Moi j'aime beaucoup cette interaction que j'ai aujourd'hui avec cette équipe. Et on verra, mais pour l'instant la trajectoire est belle.
C'est important de ne pas mettre la poussière sous le tapis.
Oui certainement. Non puis en plus c'est pas trop mon genre. Je pense que quand il y a un sujet il faut l'adresser, et puis c'est aussi une façon de développer ses collaborateurs. Je leur dois bien ça véritablement. Encore une fois, certains sont extrêmement brillants, ils font des choses que je ne saurais pas faire. Mais puisque je comprends au moins leur roadmap, je me permets de les challenger, et manifestement ça fonctionne bien parce que ça permet de les développer.
On aime bien ce micro parce qu'on accueille les champions de la tech française avec des réussites qui sont évidemment remarquables. Néanmoins, on aime bien montrer que c'est pas en un claquement de doigts qu'on construit des réussites, c'est pas si simple, voire même que parfois on est à deux doigts de planter la boîte, faute de cash. Enfin, il y a 10 000 raisons qui fait que on remonte une montagne russe après un très bas. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans cette aventure camping.com, où en fait depuis la reprise, alors, tu t'évoquais quelques difficultés à ce moment-là et ça a été une grosse croissance ensuite, néanmoins.
Non, mais évidemment, il y a toujours des moments charnières où il faut rester extrêmement vigilant et être parfaitement concentré. Il faut être bien épaulé par l'équipe, il faut être bien accompagné par ses investisseurs, ses actionnaires. Sinon, on peut faire des conneries assez facilement, finalement. Donc oui, il y a plusieurs périodes de financement. On parle d'investissement, mais l'investissement il vient pas comme ça. Hein. Il faut aller chercher du financement. Ce qui dit financement, ça veut dire valorisation.
Tu peux me rappeler le montant d'élevé?
Alors on a levé 10, puis 20, puis 27. Dernièrement pour réaliser une acquisition aux Pays-Bas. On pourra revenir sur ce point. C'est aussi intéressant dans la construction d'une équipe internationale. Il y a des moments où, évidemment, dans le jeu des valorisations, on regarde la performance et l'existant. On écoute la vision et la stratégie, mais finalement, il faut réussir à se mettre d'accord. Ça donne des moments de tension qu'il faut savoir gérer. Et c'est vrai que souvent le numéro 1, il doit montrer l'exemple, il doit monter au créneau pour trouver des solutions quand l'équipe commence à douter. L'entrepreneur qui porte le PNL, il n'a pas le droit de montrer le moindre doute.
Ça ne veut pas dire qu'il ne doute pas, c'est ça ?
Ça
ne
veut pas dire qu'il ne doute pas. Mais voilà, par respect. Et puis, ça ne sert à rien de rentrer dans une spirale négative, dans tous les cas. Mais bon, voilà, je parle souvent, je parle souvent de la solitude de l'entrepreneur.
On n'a jamais entendu parler.
C'est, voilà, mais il y a des sujets qu'on peut partager, des sujets qu'on partage peut-être un peu moins tant qu'on n'a pas trouvé la solution.
Tu parles de solitude d'entrepreneur. Je fais juste une parenthèse là-dessus. L'entrepreneur est souvent seul dans sa boîte avec ses responsabilités. C'est pas le seul entrepreneur sur Terre. T'as aussi des proches, d'autres amis entrepreneurs avec qui t'échanges un peu.
Oui, je pense que c'est important d'échanger, peut-être de décharger un peu, mais c'est extrêmement violent pour l'entourage. On pourra y revenir. Moi, je peux vous dire très honnêtement que ma famille a souffert de mon parcours professionnel.
C'est la claque dont tu voulais parler.
Oui, c'est une claque toujours, qui m'habite. Quand on a des enfants, on essaye de les protéger, leur donner le meilleur environnement et beaucoup d'amour pour qu'ils puissent grandir. Finalement, ces projets d'entrepreneurs, ils ont une charge mentale qui est lourde et qui peut altérer finalement la présence au sein d'un noyau familial. Il faut faire attention à ça. C'est la même chose dans ces échanges avec des amis en dehors de la famille. Évidemment, j'ai des amis entrepreneurs qui ont réussi, d'autres qui sont en train de réussir, donc ça permet d'échanger, de revenir sur des situations ou parler des nouveaux outils à utiliser qu'eux, ils ont déjà bêta-testés. Évidemment, il y a cet écosystème, il est important parce qu'il tire tout le monde vers le haut.
Mais au-delà des solutions, le fait de parler, de poser, des fois on les trouve soi-même, mais ça permet de...
Oui, permet de bien mettre à plat la problématique et essayer de trouver des solutions. Mais même dans des relations amicales, un entrepreneur n'est pas toujours facile, au-delà du fait qu'il peut arriver en retard pour dîner, parce qu'il avait un call inattendu, mais c'est la 10e fois que ça lui arrive cette année. Mais il apporte aussi une certaine pression, une certaine charge mentale. Je peux vous dire que c'est pas, à mon avis, ce n'est pas facile d'être dans l'entourage d'un entrepreneur qui essaye de trouver des solutions pour son entreprise.
Comment on fait exactement ce qu'on veut de cette émission ? Je te propose, donc ce sera une petite parenthèse, mais autour de la claque que tu as choisie. Ce qui fera très bien le lien avec ce que tu évoquais à l'instant.
Waouh ! La claque ?
Oui.
Bon, la claque, c'est... en fait, je crois que c'est... On parle souvent des entrepreneurs et des success stories, mais il ne faut pas oublier que finalement on a le droit de se planter. Voilà, moi j'ai eu la chance de participer à deux aventures humaines et deux aventures de création de valeur importantes, à la fois Quelcoût, à la fois Photobox. Après Photobox, j'ai repris une start-up qui était mal en point. J'ai fait un pivot en la passant d'un modèle B2C à un modèle B2B. On a fait un très très bon boulot. D'un point de vue produit, on a signé des marques à l'international qui utilisaient la plateforme. Et malgré tout, pour faire vite, l'agenda des actionnaires. Malgré tout, l'agenda des actionnaires étant un peu différent de l'agenda des managers et de la roadmap, on est arrivé à sortir trop vite. Alors qu'on avait construit un beau produit qu'on aurait pu mieux valoriser.
Voilà. C'était un peu par dépit.
C'était un peu par dépit et mais ça met une claque. Ça met une claque forte. Même si aujourd'hui je vois que le produit qu'on avait travaillé, qui a été racheté par Global, fait une grosse partie de leur chiffre d'affaires à l'international en cross-border sur des marques que j'avais moi-même signées à l'époque. Ça veut dire que
fierté après coup, mais n'empêche que petite frustration.
C'est pas une petite frustration. Ouais. C'est cinq années de travail sans compter et qui viennent fragiliser en se disant mais finalement est-ce que Est-ce que les succès du passé, je les méritais ou est-ce que cet échec, finalement, est le...
Ça résume ce que je suis.
Ça résume ce que je suis. Donc ça demande de savoir repartir et rebondir. Voilà. Après ça, je suis reparti donc, en prenant la direction de campings.com que j'ai complètement transformé. Ça a été... voilà, je pense que voilà, ça me rassure. Et surtout, ça, je pense que c'est important de dire que voilà, on peut enchaîner les succès, on peut avoir des échecs. Le plus important, c'est de savoir se relever, repartir au combat avec une vraie vision et une volonté, une volonté de bien faire. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de résumer à mes enfants à un moment, qui m'ont vu pas déprimé. Hein, j'étais loin d'un burn-out parce que j'ai jamais eu les moyens de faire un burn-out.
C'est comme avec les équipes, on essaie de montrer qu'on ne doute pas.
Oh, dans la famille, c'est un peu différent parce que finalement le noyau familial a explosé à ce moment-là, puisque je me suis séparé de leur maman, et donc ça a des incidences véritablement. Et à partir du moment où on se dit que on vient fragiliser des enfants, peut-être pour essayer de faire plaisir à un égo d'entrepreneur, on se demande si on est parti du bon côté. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, donc ça c'était il y a un peu plus de 5 ans. Hein. Mes enfants avaient à l'époque 12 et 8 ans. Maintenant, ils ont donc bien grandi. Et j'espère qu'ils garderont de cette période le fait que leur papa était entrepreneur, il essayait de faire de son mieux et qu'il y a des moments ça passe et il y a des moments ça ne passe pas. Le plus important, c'est de savoir repartir et de construire.
Ce qui est fou, je trouve, c'est ce sentiment que tu évoquais tout à l'heure, de dire « j'ai réussi ça, mais en fait, est-ce que je le mérite ?» C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais complètement serein. C'est quoi ? C'est une sorte de syndrome de l'imposteur ou cette idée qu'on peut toujours faire mieux ou qu'il faut... de nouveau démontrer constamment. Il n'y a jamais de fin à ça.
J'espère que là j'apporte un peu de sérénité. Voilà, mais pour l'instant je ne l'avais pas trop. Il faut savoir se remettre en question en permanence. Il faut être parano d'un point de vue business. Il faut regarder en permanence l'écosystème, essayer de comprendre quelles sont les innovations pour pouvoir toujours délivrer un plan attendu. Voilà, c'est ma façon de travailler. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais ça demande beaucoup de commitment.
Jusque-là, même si toi t'en doutais, ça a l'air de pas mal marcher. Il y a une notion que tu as évoquée que je n'ai jamais entendue à ce micro, c'est la réflexion sur la paranoïa. Tu disais il faut être parano sur son business, ça t'embête de développer ?
Oui, je pense qu'il faut toujours se remettre en question les acquis, essayer d'anticiper les coûts. Les coûts du marché, les mouvements de marché. On peut avoir un canal de commercialisation, de distribution qui marche très très bien, mais finalement, quelle est la dépendance ? Du PNL à ce canal, quels sont les risques. Donc c'est toujours une analyse risk-reward, comment est-ce qu'on anticipe. On ne peut pas se permettre d'avoir une politique de l'autruche. Il faut vraiment être très précis, regarder l'évolution, essayer d'anticiper au maximum.
C'était une grande parenthèse, mais on passe de parenthèse en parenthèse. Tu évoquais les acquisitions, notamment là récemment à l'étranger, mais du coup, à la fois, il y a deux reprises moi que je trouve intéressantes. Il y a celle de camping au moment où tu arrives versus celle que vous allez faire du coup plus récemment. Est-ce qu'on arrive avec la même approche puisque du coup, tu as repris une boîte? Et ensuite, tu vas échanger avec des entrepreneurs pour reprendre la leur. Oui. C'est jamais évident, ce mariage. À la fois quand on reprend une boîte avec les équipes, et puis ensuite quand on reprend une boîte avec aussi les fondateurs et les nouvelles équipes, a fortiori quand c'est peut-être à l'étranger, avec d'autres incidents, j'imagine.
Oui, c'est pas facile. Je pense qu'il n'y a pas un roadbook très clair. Tout dépend effectivement du deal, de l'implication des fondateurs, de la représentation des fondateurs, des actionnaires vendeurs dans la cap table notamment. Donc il n'y a pas un deal qui se ressemble véritablement. Malgré tout, je crois que ça doit partir d'une vision de marché pour partager un projet. Est-ce que finalement ce target partage la même vision? Est-ce qu'on a la même ambition? Et ensuite, est-ce qu'on est très clair sur le fait que 1 plus 1 égale 3 et ensemble on sera plus fort?
Sur le papier, c'est toujours évident. Je t'en parlais en off tout à l'heure. On a ce podcast Cash Out sur les exits d'entrepreneurs. Sur le papier, c'est toujours le deal. On va faire 1 plus 1 et ce sera 3. Dans la réalité, c'est pas toujours si simple.
Non, mais évidemment, mais c'est le début de la conversation. Cette conversation, elle prend un peu d'énergie, elle prend un peu d'inertie à partir du moment où les équipes ont le même ADN. Est-ce qu'on parle la même langue? Est-ce que on sent qu'on est en confiance et qu'on est capable d'aller jusqu'à un deal? Après, quand on a un deal, eh bien, ça commence vraiment. C'est à partir du moment où on a signé, eh bien, on a été chercher le financement pour pouvoir faire cette acquisition. Cette charge-là, eh bien, elle revient à l'entreprise qui a fait cette consolidation de marché et qui doit s'assurer que finalement la roadmap va bien fonctionner. Il y a différents éléments importants. L'élément culturel n'est pas neutre. Et on le voit avec cette acquisition aux Pays-Bas. On a donc fait l'acquisition de Bungalow Specials, qui est la première plateforme de réservation spécialisée dans les parcs de vacances aux Pays-Bas.
Parcs de vacances, c'est quoi? C'est un Euro Disney, enfin ce genre de... c'est quoi un parc de vacances?
C'est pas un parc d'attractions.
Oui,
parc de vacances, et c'est des parcs avec des hébergements souvent en dur. Avec des animations un peu plus haut de gamme. Voilà, bon, c'est ce que le marché des parcs de vacances aux Pays-Bas est plus important que le marché des campings aux Pays-Bas, notamment lié à la qualité de l'infrastructure et des hébergements.
Donc, pardon, je t'ai coupé.
À partir de ce moment-là, il faut réussir à mettre en place une organisation qui va rassurer l'équipe et l'intégrer correctement au sein d'un groupe. Cette dimension culturelle, elle est importante. Il faut savoir écouter. Il y a évidemment des différences. Je pense qu'il faut savoir avancer petit à petit.
Quand tu rachètes Bungalow Special, tu as plusieurs approches possibles dans des acquisitions. Des fois, on merge les techs, on garde une marque où au final, on les fait se rejoindre, souvent au profit de celle de l'acquéreur. C'est quoi la vision que vous avez? C'est chacun son marché. On va développer beaucoup plus Bungalow au niveau européen, avec notre savoir-faire et nos assets. C'est quoi la vision?
Alors, la thèse d'investissement, en fait, elle est liée à cette volonté d'aller chercher une part de marché importante aux Pays-Bas en termes d'émissions de clientèle, qu'elle soit domestique ou qu'elle soit internationale, en termes de destination.
Oui.
Et faire des économies d'échelle en agrégeant cette part de marché sur la même plateforme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire une migration du service Bungalow Specials sur la plateforme de Campings.com pour faire des économies d'échelle et monétiser au mieux le reach de Bungalow Specials aux Pays-Bas et en Allemagne pour continuer à vendre leur catalogue domestique et international, mais surtout en le renforçant du catalogue de Campings.com, qui est le plus beau catalogue en termes d'hôtellerie plein air en France et en Europe du Sud. Voilà, donc on vient rajouter de la supply à une demande qui est déjà capturée dans une part de marché.
On sait l'importance du pouvoir de la marque. Typiquement pour ce public néerlandais, c'est pas la même chose un camping et un bungalow, j'imagine, dans l'imaginaire. Donc comment on arrive à... Alors, j'imagine bien que les offres sont adressées.
Pour moi, c'est très clair. La question ne se pose même pas. On garde les marques existantes. On est dans une stratégie de part de marché. On n'est pas dans une stratégie de marque à ce stade. Enfin, si, on a des stratégies de marque en fonction des différents services et en fonction des différents catalogues. Mais dans tous les cas, on n'éteindra jamais un domaine avec son autorité et son historique. Qui porte le référencement naturel et en partie la performance du SIA. On vient faire un portefeuille de marques qui correspond finalement à notre capacité à aller adresser des bassins de population différents au service de nos partenaires hébergeurs.
Je reviens aussi sur la levée de fonds, les différentes levées de fonds. J'imagine qu'il y a... plusieurs critères qui sont observés par les VC, mais est-ce que pour toi, ce qui a joué le plus, c'est un, c'est un marché qu'on peut comprendre facilement, à la fois celui de l'hôtellerie plein air, plus le sujet de l'intermédiation, des plateformes d'intermédiation, ou le fait que tu aies le background que tu as eu, et donc peut-être avec la réassurance, ou simplement on regarde les chiffres et on y va.
C'est pas un sujet à la carte, c'est un menu, hein. C'est les trois, mon capitaine.
C'est l'entrée, plat, dessert.
Évidemment, et pourquoi pas. Évidemment, la qualité de l'entrepreneur, mais surtout de son équipe, elle est clé. Et les fonds, les investisseurs sont très clairs, finalement. On peut avoir une vision, le plus important, c'est la qualité de l'exécution et la rapidité d'exécution. Donc c'est un élément qui est clé. Ensuite, c'est quoi l'opportunité de marché, bien évidemment. Quelle est la part de marché actuellement d'un business et donc dans un mode marketplace en termes d'émission de clientèle et en termes de part de marché, en termes de supply, véritablement. Et ensuite, évidemment, dans le cadre d'une discussion de Valo, on regarde le trend, on regarde le PNL, il remonte 2 ans en arrière, si ce n'est plus, et puis ils vont regarder le plan à 3 ans en le challengeant comme des professionnels. Donc c'est un tout. On ne peut pas être bon à un endroit et être moins bon ailleurs. Il faut être pertinent, il faut savoir vendre sa copie, vendre sa stratégie. Mais en étant sur un trépied extrêmement solide.
Il y a une rubrique qu'on aime bien, Olivier particulièrement. Alors lui, il est en pleine ascension du Mont Blanc là, en ce moment, donc il prend de la hauteur autrement, mais il aime bien. Il a pris la direction générale du fonds 2050 et il aime bien nous projeter sur le monde vers lequel on va. Aussi, je te propose de parler du monde d'après. Sur ton sujet, sur ton secteur, mais comme tu es aussi citoyen de notre planète, comment tu projettes le monde vers lequel on va jusqu'à 2030, jusqu'à 2050, avec tous les enjeux qu'on connaît ? Enjeux technologiques, enjeux écologiques.
Moi, je suis un optimiste et je dis souvent d'ailleurs qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, qu'il faut continuer à avancer, qu'il faut réfléchir et il faut travailler. Et c'est valable pour les personnes, c'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les institutions. Je fais le pari de l'intelligence je crois que c'est ce qui me rend optimiste par nature.
Tu le disais, tu es père. Le monde qu'on laisse à nos enfants est un sujet. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer. avec peut-être un impact beaucoup plus important possible pour transformer le monde, répondre aux grands enjeux de notre planète. Déjà toi, comment t'as envie d'avoir cet impact ?
Bon alors, moi j'essaye d'embarquer un projet, une équipe pour faire un bon travail. On a une stratégie RSE qui est assez solide, qu'on a bien développée avec Diana dans notre équipe. On commence à faire beaucoup de choses, donc je suis assez fier. On a fait un partenariat avec Ecoterie, par exemple. On a fait notre bilan carbone, mais ce qui est un must-have quand on est French Tech 120, mais on l'avait déjà anticipé et on continue. On essaye aussi de donner des séjours à des associations pour aider des familles en précarité. Tout ça, c'est des sujets qui résonnent vraiment. On sent qu'en interne, c'est aussi une demande de nos équipes qui veulent vérifier que l'entreprise est engagée. Donc on fait de notre mieux, on avance de plus en plus de ce côté-là. Moi, à titre personnel, j'ai accompagné un ami, membre de l'équipe Quelcoup Historique, Jean-Marc Potvin, au moment où il a voulu lancer Entourage, une association qui aide les sans-abri à retrouver un peu de chaleur humaine. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Entourage, avec une application qui permet d'engager des riverains pour venir aider des personnes en précarité qui sont à proximité. On a développé un vertical appelé Linked Out, que vous avez vu certainement, puisqu'on a eu la chance de porter le nom d'un bateau de course pour le Vendée Globe et la route du Rhum.
Je ne l'ai pas vu, c'est quoi là, du coup là...
Bon, en fait, Linked Out, c'est un service qui permet d'aider les personnes en précarité à retrouver un job. Voilà, il se trouve que...
Bien vu le nom.
L'année dernière, on a eu la chance de rencontrer Alexandre Fayol d'Advance, qui nous a proposé de mettre Advance au deuxième rang pour pouvoir promouvoir Linked Out. Et nous aider à finalement développer cette activité qui a un impact social très clair et démontré maintenant. Je suis très, très fier de ça, même si je ne le revendique pas trop, parce que je n'ai fait qu'accompagner. Je ne le mets d'ailleurs pas sur mon profil LinkedIn. Et surtout, c'est Jean-Marc Potvin, le CTO de Quelcoup, qui un jour m'a appelé en me disant « Jérôme, je veux mettre ma carrière entre parenthèses et je veux faire quelque chose qui a du sens. Est-ce que tu es prêt à m'aider ?» Et je me souviens à l'époque, je lui ai dit « Écoute Jean-Marc, j'ai autre chose à faire là. Je devais être au milieu de je ne sais pas quel sujet de levée de fonds ou je ne sais pas. Je lui ai dit « Jean-Marc, j'ai autre chose à faire. Mais si je te disais non, je serais vraiment un salaud. Donc oui, je vais t'aider. » Et voilà, et donc je suis l'un des administrateurs de cette association qui a une soixantaine de salariés maintenant. Ça grossit, c'est un projet qui est magnifique.
C'est marrant parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui par humilité gardent beaucoup de choses pour eux, vont pas forcément s'étaler ni dans les médias, ni sur LinkedIn, sur un certain nombre de sujets. Or, vous avez la possibilité, effectivement, et tu viens de le faire, de faire rayonner des associations, des engagements, des visions du monde. Donc, pourquoi s'en priver ?
Oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, j'essaie de pousser au maximum, j'essaie d'accompagner. Je ne voudrais surtout pas tirer le moindre profit de mon engagement. Je l'ai fait dans un premier temps par amitié. Et puis, au fur et à mesure... j'ai été porté par l'innovation. Entourage, c'est une ONG 2.0. C'est pas une association qui essaie de lever de l'argent, enfin qui va chercher des cotisations pour adresser un sujet. C'est une ONG 2.0 parce qu'on met le grand public au centre du dispositif pour pouvoir aider les personnes en précarité. c'est de l'innovation, par de la techno, sur du social. Voilà, c'est une équipe qui est merveilleuse. Et chaque fois que j'entends des podcasts ou des talks de Jean-Marc Potvin, je reste extrêmement admiratif par la grandeur de ce bonhomme.
Eh ben, je ne sais pas s'il l'écoutera, mais en tout cas, on le taguera. Comme ça, il aura l'occasion de l'entendre, de t'entendre. Tu parlais des sujets RSE. Il y a un autre sujet important, c'est celui de la parité, de la mixité. Je sais que c'est un vrai sujet pour vous, et je crois même, d'ailleurs j'en suis sûr, que c'était l'objet de ta carte blanche. Je te propose de nous dire ce que tu souhaitais partager.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
La parole, le micro, l'audience, tout est à toi.
Alors, mais en fait, nous, on a vraiment travaillé l'index parité au sein de campings.com.
C'est un sujet.
Oui, bah, c'est un sujet que nous demande l'État, oui. Notamment. Hein. Donc, évidemment, en tant que chef d'entreprise, bah, tu dois regarder les différents sujets. Mais bon, moi, j'ai toujours été... toujours essayer de pousser cette diversité au sein de l'entreprise. J'ai aimé, d'ailleurs dans le cadre de la transformation de campings.com, prendre des ressources qui étaient cachées sous trois managers, mais qui avaient une vraie compétence pour leur dire, viens, on va donner un peu plus de responsabilité et leur faire un plan de carrière. Je pense que très très vite au sein de campings.com, j'ai pris plusieurs personnes d'ailleurs, dont une jeune femme qui est dans notre équipe de management aujourd'hui, et je lui dis, on va faire un plan de carrière, voilà, on est là, on t'emmène sur 3 ans et voilà ce qu'on va faire.
Ça, ouais.
Et je pense que ça a été magnifique pour elle, c'était magnifique pour moi, c'est aussi vachement enrichissant, hein, d'avoir la chance de pouvoir développer des gens. Voilà, donc malgré tout, on est passé d'un indice de parité homme-femme de 26%, je crois, à 91% en 3 ans. Donc on a un peu bossé le sujet.
Comment on fait ce switch ?
On essaye de comprendre véritablement quels sont les leviers pour faire bouger l'indice.
Oui, c'est ça que je veux savoir.
Oui, non, mais évidemment, c'est-à-dire qu'il faut réussir à être plus juste dans la rémunération des collaborateurs, et notamment entre les hommes et les femmes, plus juste dans les augmentations de salaire entre les hommes et les femmes. Donc voilà, on a pris le sujet et on l'a adressé correctement. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui était dans notre ADN. Je me souviens encore une jeune femme dans l'entreprise qui me disait « Non mais Jérôme, toi tu aimes les femmes ». J'ai commencé par sourire. Et elle m'a dit « Non mais en fait tu n'as pas peur de donner des responsabilités aux femmes ». J'étais un peu étonné en fait, parce que
ça te paraissait évident.
Ben, ça me paraissait évident. Je dis, mais en fait, moi je me fous de savoir si c'est un homme ou une femme. Je veux le meilleur pour faire un job. Voilà. Et on avance comme ça. Et c'est finalement pour moi assez évident. J'ai l'impression que ce ne l'a pas toujours été. Et voilà, donc il faut plutôt le travailler. Donc nous, on essaie de le travailler au mieux. Maintenant, on a, si je devais faire un petit coup de gueule, c'est que pour une boîte tech, c'est compliqué de sortir un disparité de bon niveau à partir du moment où une grosse partie de nos investissements est faite dans notre équipe tech. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à recruter des jeunes femmes en tant que développeurs. Voilà. Si les jeunes femmes développeurs nous écoutent, mais...
Alors déjà, les développeurs, c'est un sujet, général, hommes ou femmes, et a fortiori...
Et donc j'ai un peu l'impression que finalement, on nous demande de sortir des indices parité hommes-femmes d'un beau niveau, mais malgré tout, on n'a pas des cohortes de développeurs femmes que l'on peut embaucher. Donc je pense qu'il y a un travail de fond, toujours, pour expliquer aux jeunes filles très tôt que faire une école d'ingénieur, bah, c'est aussi pour elles. Et on a besoin, on a besoin de plus de femmes partout, mais également dans notre équipe tech.
Et ça commence très tôt, sans transition. déjà remercié, vient d'être élu à plus de 60% des suffrages à la tête de notre État. Et il a les clés du pouvoir, les clés de la nation. Que fais-tu ? T'es pas obligé de tout changer, hein. On va s'intéresser parce qu'on a plus tant de temps que ça devant nous. Donc on va prendre juste un sujet.
Ok, je pense que je demanderai certainement à mon ministre de l'Éducation de renforcer les passerelles entre l'éducation nationale et les entreprises. On voit beaucoup d'initiatives RSE, notamment pour l'environnement. Moi, je vois au sein de Campix.com qu'on a beaucoup d'alternants. Et je pense que ça, on le doit au président actuel. Hein.
Oui.
Ce qui a été mis en place, ça favorisait l'alternance en France, alors que il y a 10 ans, dire qu'on était alternant, c'était pas forcément le Graal. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dire qu'on est alternant, c'est mieux que d'avoir un stage de fin d'études. Donc ça a changé. Moi, je vais vous dire qu'on a beaucoup d'alternants et honnêtement, ils sont en train d'apprendre un job. Hein. Vraiment tous, hein, ils ressortent avec un job et un métier. C'est assez intéressant. Mais je crois qu'il y a certainement plus de choses à faire, plus de passerelles entre les entreprises et l'éducation nationale. Je ne serais pas choqué aujourd'hui si on me demandait de donner quelques jours ouvrés de mon équipe pour pouvoir aller faire des interventions à l'éducation dans des collèges pour essayer de sensibiliser à la tech, à des sujets de croissance, à l'e-commerce, l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que...
Créer un cadre juridique qui permette aux entreprises de détacher...
Oui, je pense que ça... Le management par l'exemple, l'éducation par l'exemple, c'est aussi important. C'est sûr que... on pense que l'intelligence artificielle va vraiment révolutionner l'éducation. Très bien, je pense qu'il faut aussi... permettre aux enfants d'être formés aux outils d'intelligence artificielle. C'est compliqué, ça bouge très très vite. Je pense que les entreprises ont besoin de permettre à l'éducation nationale de rester au niveau en allant chercher des intervenants qui sont capables de montrer à nos enfants quels sont les métiers du futur.
Je te recommande, si tu ne connaissais pas 100 000 entrepreneurs qui envoient c'est sur des interventions one-shot plutôt dans les classes, mais avec des entrepreneurs qui viennent à la rencontre des collégiens, des lycéens et des gens de primaire, je ne sais plus comment on appelle, des colliers, pardon. C'est un petit coup de pouce, mais ça demande à être effectivement développé. Je te propose, le temps nous étant compté, mon cher, de parler de toi.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
On va aller à mi-chemin entre ce qui a fait l'homme et tes différentes aventures. Et pour ça, je voudrais commencer par les premières fois, les dernières fois. Dernière nuit blanche.
La semaine dernière.
Je peux te demander pourquoi ?
Il y a des moments où j'arrive à prendre un sujet j'ai besoin d'écrire une strate pour pouvoir la partager avec le reste de l'équipe. Quand j'ai l'énergie, quand je suis bien parti, j'essaye d'aller au bout.
Donc c'est une nuit blanche productive.
J'étais assez fier finalement d'avoir tenu, même si le lendemain matin évidemment c'était un peu plus dur. Mais finalement il ne fallait pas mettre à la poubelle ce que j'avais écrit pendant la nuit. Il y a des moments où il faut mettre un coup de collier pour faire avancer des sujets. Ce sujet-là n'avançait pas suffisamment vite à mon goût. J'ai décidé de l'écrire et de challenger l'équipe en disant ce que j'ai en tête. Dites-moi ce que vous en pensez.
Premier renoncement.
Premier renoncement. Je comprends même pas la question. Ça va faire rire Robert s'il nous écoute. Je ne renonce jamais. Je ne renonce jamais. C'est pas possible. J'essaye encore. Ceux qui me connaissent bien me le reprochent d'ailleurs. Je ne lâche jamais. Donc voilà, je ne sais pas quelle était l'idée derrière cette question, mais je ne lâche rien.
On dit souvent que choisir, c'est renoncer. Des choix, par contre, tu en as fait. La première ego trip, t'en as eu ? Des moments de boost d'ego incroyables.
Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas été chercher un moment, un instant qui allait me rebooster mon ego. Non, je pense que mon ego, il se nourrit des étoiles que je vois dans les yeux de mon équipe et dans les étoiles que je vois dans les yeux de mes enfants. Voilà, je suis assez simple en fait. Je fais le taf et ça marche bien comme ça.
Et ça se prend, et si c'est de l'ego ou juste de la fierté, ça se prend en tout cas.
Importe. Donc, ouais. Mais je vais pas le chercher en fait. Je pense que j'ai la chance d'avoir un quotidien qui me nourrit suffisamment, à la fois professionnel et à la fois personnel.
Dernier doute.
Dernier doute, je doute tout le temps. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure qu'il faut être parano. Je doute des décisions. On fait des A/B tests en permanence. Voilà, il y a de la méthodo pour réussir à régler le sujet. Mais je pense qu'à partir du moment où on n'a pas de doute, c'est on prend le risque d'avoir tort. Et voilà, je pense qu'il faut savoir se remettre en question en permanence. Donc pour moi, si je ne lâche jamais, je doute toujours.
Première connerie.
Moi j'ai fait beaucoup de conneries avec mon frère et ma sœur. J'ai du mal à replonger.
Oui, c'est une première que tu vas chercher loin là.
40 ans plus tôt, ou même 45. Mais j'ai eu une enfance heureuse. J'ai fait beaucoup de conneries avec mon frère et ma sœur, et même avec mon père d'ailleurs. C'était assez heureux.
La première œuvre qui a changé ton regard sur le monde ou ta façon de l'observer ? Une lecture, un film ? C'est plus rarement une sculpture, mais ça pourrait.
J'étais profondément touché par les sculptures au musée Rodin à Paris. C'est un endroit que j'aime beaucoup. La finesse, la qualité des détails, ça permet toujours de montrer que finalement notre impact il est petit à l'échelle du monde,
du temps,
à l'échelle
aussi.
Du temps.
En même temps ça peut perdurer, ça peut traverser les siècles et...
évidemment c'est ce qu'on cherche tous, à laisser une empreinte, mais je pense que c'est aussi beaucoup d'humilité face à la splendeur de ce qui a été créé il y a bien longtemps.
S'inspirer. Respirer.
L'hypercroissance, ça va vite. C'est un sprint. En même temps, c'est aussi un marathon. Tu parlais de l'impact de la vie de l'entrepreneur aussi sur son entourage, et du coup une question mais qui se pose à tous, c'est comment déjà on prend le temps de respirer, de prendre des forces, de l'énergie pour tenir, où t'y vas à l'adrénaline permanente?
Oui, alors je vois évidemment des entrepreneurs qui partagent une hygiène de vie exceptionnelle. Je suis peut-être pas un bon élève.
Épicurien.
Je suis plutôt. J'aime bien le work hard, play hard. J'aime bien profiter quand j'ai le temps. Je peux tenir un rythme de travail assez important. Mais voilà, je pense que encore une fois, ce qui me nourrit, c'est mon entourage, ma famille, mes amis, mes proches. Voilà, je me nourris de ça.
Tu dis Work Hard Play Hard, typiquement, jusqu'à 6h du matin avec ses proches, quoi que l'on ait fait dans la nuit, c'est, même si on parle de fatigue, ça peut être une bonne fatigue.
C'est un repos. Ça permet de retirer un peu de charge mentale et mettre certainement un peu d'insouciance. Voilà, je pense que c'est important de trouver un certain équilibre. Je vais essayer de faire plus attention à mon hygiène de vie.
Pourquoi tu parlais de l'âge tout à l'heure, c'est l'impératif de l'âge, force de l'entendre de tes proches.
Je pense que c'est ma mère qui a une certaine pression et qu'elle me le rappelle chaque semaine.
Et c'est une super transition parce qu'on a parlé de tes enfants, on est parvenu sur là d'où tu viens. Et typiquement de cette enfance, c'est toujours plus facile de refaire le storytelling une fois que la boîte est bien avancée, mais c'est pareil d'un point de vue personnel. Après coup, qu'est-ce que tu vois de l'enfance que tu as eue, des apprentissages ou des rencontres ou des mantras qui ont pu t'être transmis, ces petits indices qui allaient faire que Jérôme Mercier allait devenir l'entrepreneur qu'il est devenu?
Écoute, je sais pas. Je sais pas trop. J'ai fait un parcours scolaire classique, avec une école d'ingé et une école de commerce ensuite. Je pense que ce qui m'a construit, ça a été deux choses. Certainement la musique, parce que j'ai fait plus de 12 ans de conservatoire.
Tu play hard?
Je play du saxophone.
Ok.
Voilà, je pense que en fait.
Ça, c'est la classe en soirée.
Ouais. Ça t'apprend à essayer de sortir le meilleur rendement, la meilleure version quand tu lis une partition, ou la meilleure version de toi, parce que tu mets un peu de toi évidemment quand tu.
Oui, une même partition jouée par trois artistes différents, c'est trois musiques différentes.
Voilà, mais je pense que ça m'a donné cette sensibilité marketing.
De musicalité, des mots, du rythme.
Oui, du travail bien fait, du détail, d'essayer de faire la différence à certains moments. Donc. Voilà, je pense que ce parcours au conservatoire n'a pas fait de moi un grand musicien.
Tu joues encore ?
Oui, je joue encore. Ouais. Oui, je joue encore. J'ai la chance d'avoir un saxo alto, un saxo soprane, comme Sidney Bechet, comme le voulait ma maman. Je joue encore, mais ça m'a vraiment donné cette sensibilité marketing, je pense. Donc ça fait partie de moi.
Et tu parlais d'un deuxième.
Le deuxième, c'est que en fait j'ai découvert la voile avec mon papa. J'ai fait de la voile pendant très longtemps, de 6 ans à 20 ans.
En dériveur.
Non, sur des bateaux habitables, okay. Des bateaux de 35, 38, 40 pieds. Très vite à la barre, mais très vite dans des situations où finalement il faut savoir anticiper et quand on navigue en Bretagne Nord, il y a du courant,
ça peut secouer un peu
et il faut savoir gérer une situation. Donc on peut
c'est ce qui fait que t'es devenu paranoïaque un petit peu. Vaut mieux savoir le temps qu'il va faire, la houle qu'il va y avoir
c'est se dire que les conditions de marché ou les conditions de mer peuvent changer à tout moment et il faut être capable de soit réduire la voilure soit aller plus vite. Mon ami Pierre Chappaz disait souvent à l'époque de Quelcoup que c'était finalement un peu comme une de la conduite de voiture de rallye. Il faut savoir accélérer très vite, freiner très vite et surtout réaccélérer très vite dans tous les cas. Bon voilà, moi cette euh, ces années passées sur l'eau, en prendre plein la gueule en Bretagne, et ben ça m'a certainement laissé cette volonté de ne jamais lâcher et de devoir anticiper, de protéger un équipage et surtout essayer de ramener tout le monde au beau port.
Et on parlait de responsabilité de l'entrepreneur, la responsabilité d'un skipper, elle est peut-être d'autant plus... Elle prend plus de sens. Ouais. Là, on parle de vie.
Hein. Oui, bien sûr.
Tu as eu des moments de voile comme ça qui ont été particulièrement intenses?
Oui, je me souviens d'une navigation avec mon père entre Guernesey et La Bervrac à la pointe de la Bretagne.
Vous êtes fait peur?
On s'est dit qu'on n'allait peut-être pas rentrer.
Voilà. On se dit quoi à ce moment-là?
On se dit que je me souviens très bien de ce moment. Je me souviens très bien de ce moment, c'est que notamment au moment où j'ai dû aller au pied de mât pour passer le troisième ris sur la grand voile, vous voyez que c'était un peu compliqué. Et à ce moment-là, t'as un choix à faire en te disant tu descends, tu te mets au milieu du cockpit et tu pleures en disant je peux pas y aller. Où finalement tu te lèves, tu vas et tu fais le job, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà. Mais il y a ce petit moment où tu te dis, mais il y a un vrai risque, est-ce que j'y vais? C'est pas très très loin, hein, mais malgré tout, il faut se mettre debout.
Ouais.
Tu y vas à plat ventre, mais il faut se mettre debout pour prendre le troisième riz. Voilà, t'as ce petit moment-là où finalement tu peux flancher et ça peut tout changer. Voilà, ça m'a appris certainement le fait que il faut faire les bons choix et il faut savoir se lever et faire le boulot quand personne ne peut le faire.
Ouais. Et tu disais, on s'est dit qu'on reviendrait peut-être pas. Est-ce que c'était juste un échange dans le regard avec ton père? Il y a eu des mots qui ont été partagés? Ou juste tu vas au troisième mât et tu gères ça?
Ouais, non, c'était je pense que c'était juste un regard. Parce que c'est des situations où il vaut mieux pas mettre de mots.
On sait.
On sait, c'est pas la peine de parler. Voilà. Bon, après, peut-être que c'était pas si méchant que ça, finalement. Mais bon, voilà. À l'époque, pour nous, avec notre niveau, c'était une situation qui aurait pu être dramatique. Ouais.
Avant de lancer le tournage, je t'ai demandé si demain tu devais mourir. Qu'est-ce que t'aimerais dire au monde, à l'humanité ou déjà au monde des entrepreneurs avant de partir?
Eh bien, je crois que je leur dirais de ne pas oublier de dire aux gens qu'ils aiment. Bien, qu'ils comptent beaucoup et qu'ils les aiment. C'est, voilà, il faut retirer cette petite couche de
pudeur.
De pudeur pour lâcher et véritablement dire aux personnes qui comptent qu'on les aime. Voilà. Donc moi, s'il ne me restait pas beaucoup de temps. J'irai évidemment essayer de passer du temps avec mes enfants et avec ma compagne. Voilà.
Une très belle chanson de la famille Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime.
Oui.
Je ne sais pas si tu la connais.
Oui, bien sûr.
On va se quitter avec ton choix Sista. Tu le sais, hein, on parlait tout à l'heure de mixité, de parité. Ça fait un moment que le Next 40, et c'est normal pour plein de raisons, moins d'entrepreneurs tout court, femmes, encore moins d'entrepreneurs femmes dans la tech, et du coup, ça se ressent au classement Next 40, FT120. Et du coup, on a ce format petite sœur, 40 nuances de Sista. Et pour le nourrir, et ben on demande aux entrepreneurs qu'on reçoit de nous partager le nom d'une femme entrepreneur qu'ils admirent. Et pour ça, tu as choisi.
Alors j'ai choisi Lucie, qui est la directrice générale d'Entourage, l'association dont je parlais tout à l'heure, qui fait un travail incroyable et qui véritablement a un impact aujourd'hui social qui est très clair. À la fois avec le service Entourage, à la fois avec LinkedOut.
Lucie De Clercq.
Lucie De Clercq, voilà, qui nous a permis de bien calibrer cette innovation technologique dans le monde associatif, parce qu'elle avait cette expertise, cette expérience-là. Voilà, c'est une façon de donner un coup de projecteur à Lucie, qui fait un travail incroyable depuis plusieurs années, et surtout à cette association qui est utile, à mon sens.
Certains pourraient ne pas voir le lien direct entre monter une association, la diriger et l'entrepreneuriat. Je te laisse le faire.
En fait, c'est un projet. Voilà, il y a d'innovation, il y a un service, il y a des clients, même si c'est pas le même but in fine. Mais il faut aussi aller chercher des financements auprès de l'État, auprès de grands donateurs, monter un service de qualité, montrer son impact au travers de différents KPIs.
La démarche est très comparable à bien des égards.
Exactement.
Est-ce que tu... on va lui poser une question en ton nom. D'ailleurs, on va même faire mieux que ça. On va enregistrer tout de suite une question que tu aimerais lui poser directement et qu'on lui... passera à l'image des deux interventions que tu as eues tout à l'heure de Sébastien et Robert.
Alors Lucie, est-ce que quand tu vois Jean-Marc Potvin, tu restes toujours aussi impressionné comme je le suis ?
Un immense merci à toi.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation.
Je propose à tous ceux qui aimeraient en savoir plus sur ton aventure, quel coût tes différentes sessions, en fait, de patienter un peu et de suivre Cash Out sur la saison 3. J'aurai le plaisir de t'y accueillir.
Avec plaisir.
Merci à
beaucoup.
Toi.
Merci.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.